Aristote, Morale à Eudème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 5, Théorie des vertus intellectuelles. Remarque, le livre 5 correspond exactement au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque. Chapitre 1er, sommaire. Des vertus intellectuelles. Nécessité de donner plus de précision aux théories précédentes. Insuffisance des règles générales. Pour bien expliquer les vertus intellectuelles, il faut faire une étude exacte de l'âme. Dans la raison, il y a deux parties distinctes. L'une, qui n'est relative qu'à la science et aux principes éternels et immuables. L'autre, qui délibère et calcule sur les choses contingentes. Rôle divers dans l'âme de l'homme, de la sensation, de l'intelligence et de l'instinct. C'est toujours la libre préférence de l'âme, éclairée par la raison, qui est le principe du mouvement. La préférence et la délibération ne s'appliquent jamais qu'à l'avenir. Paragraphe 1. Plus haut, nous avons établi qu'il faut en tout prendre le juste milieu, en évitant soit l'excès, soit le défaut. Faisons voir maintenant avec plus de détails que ce milieu est le devoir que prescrit la droite raison. Dans toutes les vertus dont nous avons parlé, aussi bien que dans les autres, on peut reconnaître un but sur lequel tout homme qui est vraiment raisonnable, ayant sans cesse les yeux fixés, accroît ou diminue tour à tour ses efforts. Il y a, de plus, une certaine limite pour les milieux que nous plaçons entre l'excès et le défaut. Et ce milieu sont conformes à la droite raison. Paragraphe 2. Sans doute, toutes ces théories sont exactes, mais elle est loin d'être parfaitement clair. Pour toutes les autres occupations de l'esprit, où se trouve aussi la science, il est également vrai de dire qu'il ne faut travailler ou se reposer ni trop ni trop peu, mais qu'il faut toujours tenir le milieu et suivre la voie que nous indique la droite raison. Mais celui qui n'aurait pour se conduire que cette règle générale n'en saurait guère plus long sur ce qu'il doit faire. Et c'est comme si, pour les soins qu'on doit donner au corps et à la santé, on venait vous dire qu'il faut faire tout ce qu'ordonne la médecine et celui qui possède cet art. De même, il ne suffit pas non plus que nos théories sur les qualités morales de l'âme soient vraies. Il faut de plus déterminer avec précision ce qu'on doit entendre par la droite raison et en donner la définition complète. Paragraphe 4. Déjà, nous avons divisé les vertus de l'âme et nous avons dit que les unes sont des vertus du cœur et les autres des vertus de l'esprit. Nous avons traité précédemment des vertus morales. Parlons ici des autres, après avoir dit préalablement quelques mots sur l'âme. Paragraphe 5. Il a encore été démontré plus haut que l'âme avait deux parties, l'une douée de raison et l'autre irraisonnable. Divisons maintenant, d'une manière analogue, la partie qui est douée de raison. Et supposons que de ces deux parties qui sont également raisonnables, l'une nous fait connaître parmi les choses celles dont les principes ne peuvent jamais être autrement qu'ils ne sont, et l'autre les choses dont l'existence est contingente et variable. Il est tout naturel, en effet, que pour les choses dont le genre est différent, il y ait aussi en rapport avec elles une partie de l'âme génériquement différente, puisque la connaissance de ces choses se produit dans chacune des parties de l'âme par une sorte de ressemblance et d'affinité. Paragraphe 6. De ces deux parties de l'âme, appelons l'une la partie scientifique et l'autre la partie raisonnante et calculatrice. En effet, délibérer et calculer, c'est au fond la même chose. Et l'on ne s'avise jamais de délibérer sur les choses qui sauraient être autrement qu'elles ne sont. Ainsi, cette partie calculatrice et raisonnante est une subdivision de la partie raisonnable de l'âme. Paragraphe 7. Voyons donc, pour ces deux parties ainsi subdivisées, quelle est la meilleure disposition que chacune d'elles peut avoir, puisque c'est là précisément la vertu de chacune, et que la vertu s'applique toujours à l'œuvre qui est spécialement propre à l'individu. Paragraphe 8. Il y a dans l'âme de l'homme trois principes qui, pour lui, disposent en maître de l'action et de la vérité. Ce sont la sensation, l'entendement et l'instinct. Paragraphe 9. De ces trois principes, la sensation ne saurait être jamais pour nous un principe d'action réfléchie. La preuve en est que les animaux ont la sensation et qu'ils n'ont point, cependant, en partage, cette activité réfléchie que l'homme seul possède. Mais le même rôle que jouent les négations et l'affirmation dans les actes de l'entendement, la poursuite et l'aversion des choses, le joue dans les actes de l'instinct. Il s'ensuit que, la vertu morale étant une certaine disposition qui préfère et choisit, et cette préférence n'étant que l'instinct qui réfléchit et qui délibère, il faut, par les mêmes motifs, que la raison de l'homme soit vraie, et son instinct bon et droit, si la préférence a été bonne elle-même, et que la raison approuve d'une part les mêmes choses que d'autre part l'instinct poursuit. Telles sont précisément, dans la pratique de la vie, l'intelligence et la vérité. Paragraphe 10. Mais pour l'intelligence purement contemplative et théorique, qui n'est ni pratique ni active, le bien et le mal, c'est le vrai et le faux, car la vérité et l'erreur, c'est là l'objet unique de tout acte de l'intelligence. Mais quand il s'agit de joindre la pratique à l'intelligence, le but que l'âme poursuit, c'est la vérité s'accordant avec l'instinct, ou le désir qui se conforme lui-même à la règle. Paragraphe 11. Ainsi donc, le principe de l'activité, c'est la préférence réfléchie de l'âme d'où vient le mouvement initial. Ce n'est pas le but qu'on poursuit, ce n'est pas la cause finale, et le principe même de la préférence. C'est l'instinct d'abord, et ensuite le raisonnement, que fait l'âme en vue de quelque chose qu'elle désire. Aussi, n'y a-t-il point de préférence possible sans intelligence et acte de l'intelligence, ni sans une certaine disposition morale, puisqu'on ne peut bien faire, ni faire non plus le contraire du bien, dans le domaine de l'action, sans l'intervention de l'intelligence et du cœur. Paragraphe 12. L'intelligence prise en elle-même ne met rien en mouvement, mais ce qui meut réellement, c'est cette intelligence qui a en vue quelque but particulier et qui se fait pratique. C'est elle alors qui commande à cette autre partie de l'intelligence qui exécute. Car, du moment qu'on fait une chose et qu'on la fait pour atteindre quelque but, cette chose même qu'on fait n'est pas précisément la fin qu'on poursuit. Elle n'est jamais que relative et dépend toujours de quelque autre chose encore. Mais il n'en est pas ainsi de la chose qu'on veut faire, car faire bien et réussir est la fin qu'on se propose, et c'est à cette fin que l'instinct réfléchi s'applique. Ainsi donc, la préférence de l'âme est un acte d'intelligence instinctif ou d'instinct intelligent. Et l'homme est précisément un principe de ce genre. Paragraphe 13. Le passé, la chose faite, ne peut jamais être l'objet de la préférence morale. Et par exemple, personne ne préfère avoir saccagé Ilion. C'est qu'il est impossible de délibérer sur un fait accompli. On ne délibère que sur l'avenir et sur le possible, parce que ce qui a été, c'est-à-dire le passé, ne peut pas n'avoir point été. Aussi, le poète Agathon a-t-il bien raison quand il dit « Dieu même, en ce seul point, n'a pas de liberté. Il faut bien que toujours ce qui fut ait été. » Paragraphe 14. Ainsi donc, la vérité est également l'objet de l'une et l'autre des deux parties intelligentes de l'âme. Et les dispositions morales qui leur feront à l'une et à l'autre trouver le plus sûrement la vérité sont précisément les vertus supérieures de toutes deux. Chapitre 2. Sommaire. L'âme a cinq moyens d'arriver à la vérité. L'art, la science, la prudence, la sagesse et l'intelligence. De la science. Définition de la science. Ce qu'on sait ne peut être autrement qu'on ne le sait. L'objet de la science est nécessaire, immuable, éternel. La science se fonde sur des principes indémontrables que donne l'induction et sur lesquels s'appuie le syllogisme pour en tirer une conclusion certaine, mais moins évidente qu'eux. Citation des analytiques. Paragraphe 1. Pour traiter de nouveau de ces matières, reprenons les choses de plus haut. Admettons d'abord que les moyens à l'aide desquels l'âme arrive à la vérité, soit qu'elle affirme, soit qu'elle nie, sont au nombre de cinq. Ce sont l'art, la science, la prudence, la sagesse et l'intelligence ou l'entendement. Laissons de côté la conjecture et l'opinion qui peuvent nous induire en erreur. Paragraphe 2. On se rendra compte très clairement de ce qu'est la science si l'on veut en avoir une notion précise et ne pas s'arrêter à des à peu près par cette seule observation. Nous croyons tous que ce que nous savons ne peut être autrement qu'il n'est. Et quant aux choses qui peuvent être autrement, nous ignorons complètement, dès l'instant qu'elles sortent de la contemplation de notre esprit, si elles sont réellement ou si elles ne sont pas. La chose qui est sue, qui peut être l'objet de la science, existe donc de toute nécessité. Elle est donc éternelle. Car toutes les choses qui existent d'une manière absolue et nécessaire sont éternelles. De même que les choses éternelles sont incréées et impérissables. Paragraphe 3. De plus, toute science paraît susceptible d'être enseignée, et toute chose qui est sue paraît pouvoir être apprise. Or, tout ce qu'on apprend, toute notion qu'on acquiert ou que transmet un maître vient de principes antérieurement connus, ainsi que nous l'expliquons dans les analytiques. Car toute connaissance, quelle qu'elle soit, est acquise soit par induction, soit par syllogisme. L'induction est de plus le principe des propositions universelles, et le syllogisme est tiré des universaux. Ainsi, il y a des principes d'où vient le syllogisme et pour lesquels il n'y a plus de syllogisme possible. Ils sont donc le résultat de l'induction. Paragraphe 4. En résumé, la science est pour l'esprit la faculté de démontrer régulièrement les choses et avec tous les caractères que nous avons indiqués dans les analytiques. Et en effet, du moment que quelqu'un a une croyance à quelque degré que ce soit et qu'il connaît les principes en vertu desquels il croit, alors il a la science, il sait. Et si les principes ne sont pas plus évidents pour lui que la conclusion, alors il n'a la science qu'indirectement. Voilà, suivant nous, ce qu'il faut entendre par la science. Chapitre 3. Sommaire. De l'art. Définition de l'art. Il est le résultat de la faculté de produire et non de l'action proprement dite. Il ne s'applique qu'aux choses contingentes et qui peuvent être ou n'être pas. Il est dirigé par la raison vraie. L'inhabileté n'est dirigée que par une fausse raison. Paragraphe 1. Dans les choses qui peuvent être autrement qu'elles ne sont, il faut distinguer deux nuances. D'une part, la production, c'est-à-dire les choses que nous produisons extérieurement, et d'autre part l'action, c'est-à-dire celle qui ne se passe que dans notre esprit. On voit que la production et l'action sont fort différentes l'une de l'autre. Mais nous nous en rapportons, pour ce qui les concerne, à ce qui a été dit dans nos ouvrages exotériques. Par suite, la disposition morale qui, aidée de la raison, nous fait agir, est très différente de cette autre disposition qui, aidée également de la raison, nous fait produire les choses. Ces deux dispositions ne sont pas comprises réciproquement l'une dans l'autre, et l'action n'est pas plus la production que la production n'est l'action. Paragraphe 2. Mais comme il existe un art, et prenons par exemple l'art spécial de l'architecture, et que cet art est le résultat d'une faculté de production d'un certain genre, éclairée par la raison. Comme, en outre, il n'y a pas d'art qui ne soit une faculté de production secondée par la raison, pas plus qu'il n'y a dans notre intelligence de facultés productives qui ne soient aussi un art. Il s'ensuit que l'art se confond en nous avec la faculté qui produit les choses extérieurement en s'aidant de la vraie raison. Paragraphe 3. Tout art, quel qu'il soit, tend à produire. Jamais ses efforts, ses spéculations n'ont qu'un but. C'est de faire naître quelqu'une de ces choses qui peuvent indifféremment être ou n'être pas, et dont le principe est uniquement dans celui qui fait, et non point dans la chose qui est faite. Ainsi, l'art ne se rapporte point aux choses qui existent nécessairement ou qui se produisent nécessairement, non plus qu'aux choses que la nature gouverne seule. Car toutes les choses de cet ordre ont en elles-mêmes le principe de leur existence. Paragraphe 4. D'autre part, la production et l'action étant fort différentes entre elles, il s'ensuit que l'art est dans la sphère de la production et non dans celle de l'action proprement dite. Et l'on peut dire en un certain sens que la fortune et l'art s'appliquent aux mêmes objets, comme le remarque fort bien Agathon. La fortune aime l'art aime la fortune. Paragraphe 5. L'art est donc, je le répète, une certaine faculté de produire, dirigée par la raison vraie, tandis que le défaut d'art, l'inhabileté, est au contraire une faculté de produire qui n'est conduite que par une raison fausse, appliquer toujours aux choses contingentes qui peuvent être autrement qu'elles ne sont. Chapitre 4. Sommaire. De la prudence. Définition de la prudence. Elle ne s'applique qu'aux choses contingentes. Ses différences avec l'art et la science. Exemple de Périclès. Influence fâcheuse des émotions du plaisir et de la douleur sur la prudence et sur la conduite de l'homme. La prudence, une fois acquise, ne se perd plus. Paragraphe 1. Quant à la prudence, on peut en prendre une idée en considérant quels sont les hommes qu'on honore du titre de prudent. Le trait distinctif de l'homme prudent, c'est, ce semble, d'être capable de délibérer et de juger comme il convient sur les choses qui, pour lui, peuvent être bonnes et utiles, non pas à quelques égards particuliers, comme la santé et la vigueur du corps, mais qui doivent en général contribuer à sa vertu et à son bonheur. Paragraphe 2. La preuve, c'est que nous disons des gens qu'ils sont prudents dans telle affaire spéciale, quand ils ont bien calculé pour atteindre quelque but honorable, pour les choses qui ne dépendent pas de l'art, tel que nous venons de le définir. Ainsi, l'on peut dire d'un seul mot que l'homme prudent est en général l'homme qui sait bien délibérer. Paragraphe 3. Or, personne ne délibère ni sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, ni sur les choses que l'homme ne peut point faire. Par conséquent, si la science est susceptible de démonstration, et si la démonstration ne s'applique point aux choses dont les principes peuvent être autrement qu'ils ne sont, toutes les choses dont il s'agit ici pouvant être aussi autrement, et la délibération n'étant point possible sur les choses dont l'existence est nécessaire, il s'ensuit que la prudence n'est ni de la science ni de l'art. Elle n'est pas de la science parce que la chose qui est l'objet de l'action peut être autrement qu'elle n'est. Elle n'est pas de l'art parce que le genre auquel appartient la production des choses est différent de celui auquel appartient l'action proprement dite. Paragraphe 4. Reste donc que la prudence soit une faculté qui, découvrant le vrai, agit avec l'aide de la raison dans toutes les choses bonnes ou mauvaises pour l'homme, car le but de la production est toujours différent de la chose produite, et au contraire, le but de l'action n'est toujours que l'action même, puisque la fin qu'elle se propose peut être uniquement de bien agir. Paragraphe 5. Ceci nous explique que, si nous regardons Périclès et les personnages de ce caractère comme des gens prudents, c'est qu'ils sont capables de voir ce qui est bon pour eux et pour les hommes qu'ils gouvernent. Et c'est là, précisément, la qualité que nous reconnaissons dans ceux que nous appelons des chefs de famille et des hommes d'État. L'étymologie seule du mot « sagesse », analogue à celui de « prudence » dans la langue grecque, montre assez que nous entendons par ce mot la prudence qui sauve en quelque sorte les hommes. Paragraphe 6. C'est bien elle, en effet, qui sauve et qui soutient nos jugements en ce genre. Ainsi, le plaisir et la peine ne détruisent ni ne bouleversent toutes les conceptions de notre intelligence. Absolument, il ne nous empêche pas de comprendre, par exemple, qu'un triangle a ou n'a pas ses angles égaux à deux droits. Mais il trouble nos jugements en ce qui concerne l'action morale. Le principe de l'action morale, quelle qu'elle soit, est toujours la cause finale en vue de laquelle nous nous déterminons à agir. Mais ce principe cesse d'apparaître immédiatement au jugement que le plaisir ou la douleur ont altéré et corrompu. l'esprit ne voit plus alors que c'est un devoir d'appliquer ce principe et de régler sur lui sa conduite tout entière et toutes ses préférences. Car le vice détruit en nous le principe moral d'action. Il faut donc nécessairement reconnaître que la prudence est cette qualité qui, guidée par la vérité et la raison, détermine notre conduite en ce qui regarde les choses qui peuvent être bonnes pour l'homme. Paragraphe 7. Dans l'art, il peut y avoir des degrés de vertu, mais il n'y en a plus dans la prudence. De plus, dans l'art, celui qui se trompe de son plein gré est préférable à celui qui se trompe sans le vouloir. Pour la prudence, c'est tout le contraire, de même que pour les autres vertus. Par conséquent, la prudence est une vertu et non point un art. Paragraphe 8. Comme il y a deux parties dans l'âme qui sont douées de raison, elle est la vertu de celle qui n'a que l'opinion en partage, car l'opinion ainsi que la prudence s'appliquent à tout ce qui peut être encore autrement qu'il n'est, c'est-à-dire à tout ce qui est contingent. On ne peut pas dire, toutefois, que la prudence soit une simple manière d'être qu'accompagne la raison. Et la preuve, c'est qu'une telle manière d'être pourrait se perdre par l'oubli, tandis que la prudence ne se perd et ne s'oublie jamais. Chapitre 5. Sommaire. De la science et de l'intelligence. L'intelligence, l'entendement, est la faculté qui connaît directement les principes indémontrables. La sagesse ou la parfaite habileté doit être considérée comme le plus haut degré de la science. Elle s'élève au-dessus des biens humains et des intérêts personnels. Phidias, Polyclète, Anaxagore, Thalès. La prudence, qui est essentiellement pratique, doit surtout connaître les détails et les faits particuliers. Paragraphe 1. Quant à la science, elle est, nous l'avons dit, la conception des choses universelles et des choses dont l'existence est nécessaire. Or, il y a des principes pour toutes les propositions qui peuvent être démontrées et pour toute science, quelle qu'elle soit. Car la science est toujours accompagnée de raisonnement. Mais pour le principe même de ce qui est connu à l'aide de la science, ce n'est ni la science, ni l'art, ni la prudence qui peuvent nous le révéler. Car d'une part, l'objet de la science peut être démontré, et de l'autre, l'art et la prudence ne s'appliquent qu'aux choses qui peuvent être autrement qu'elles ne sont. Quant à la sagesse, elle ne s'applique point non plus aux principes de cette espèce, parce que le sage, dans certains cas, doit pouvoir donner des démonstrations de ce qu'il pense. Paragraphe 2. Mais si, pour les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, et même pour celles qui peuvent être autrement qu'elles ne sont, c'est-à-dire les choses nécessaires et contingentes, les facultés par lesquelles nous atteignons le vrai et ne sommes jamais trompés sont la science, la prudence, la sagesse et l'intelligence. Et si en outre aucune des trois premières facultés, c'est-à-dire la prudence, la sagesse et la science, ne peuvent connaître les principes, il reste que ce soit l'entendement seul qui s'applique aux principes et qui les comprenne. Paragraphe 3. Quant à l'habileté savante qui se manifeste dans les arts, nous ne l'attribuons qu'à ceux qui exercent chacun de ces arts avec le plus de perfection. Ainsi, Phidias est appelé un habile sculpteur, Polyclète un habile statuaire. Et nous ne voulons désigner ici, par ce mot d'habileté savante, rien de plus que le talent supérieur dans l'art. Paragraphe 4. Mais il est des hommes, assez rares d'ailleurs, que nous regardons comme sages et habiles d'une manière générale. Non pas habiles pour telle chose en particulier, mais habiles purement et simplement, comme le dit Homère dans son Margites. Les dieux n'en ont pas fait un laboureur habile non plus qu'un habile homme, en ressources fertiles. Ainsi, évidemment, l'habileté savante ou sagesse doit être considérée comme le plus haut degré de la perfection dans toutes les choses que l'on peut savoir. Paragraphe 5. Il faut donc que l'homme vraiment habile et sage connaisse non seulement les vérités qui dérivent des premiers principes, mais aussi qu'il sache, avec toute vérité, les principes eux-mêmes. Il suit de là que la sagesse est un composé de l'intelligence et de la science, et qu'elle est, on peut dire, la science des choses les plus relevées, tenant la tête de toutes les autres sciences. En effet, il y aurait absurdité à croire que la science politique ou la prudence politique est la plus haute de toutes les sciences, si l'on ne croyait pas en même temps que l'homme dont elle s'occupe est ce qu'il y a de plus excellent dans l'univers. Paragraphe 6. Mais certains attributs, et par exemple le saint et le bon, peuvent varier selon les êtres différents auxquels ils s'appliquent. Et ainsi, ils peuvent varier des hommes aux poissons, tandis que le blanc et le droit, dans un autre ordre d'idées, sont toujours blancs, toujours droits. Tout de même, on conviendra que ce qui est sage est toujours sage, et que ce qui n'est que prudent peut changer suivant les cas. Aussi, toutes les fois qu'un homme sait bien discerner son intérêt dans toutes les choses qui le touchent personnellement, on l'appelle prudent, et l'on est tout disposé à lui confier le soin des choses de ce genre. On va même plus loin, et l'on accorde aussi le nom de prudent à certains animaux qui semblent avoir une prévoyance assurée pour les choses qui se rapportent à leur propre subsistance. Paragraphe 7. Du reste, il est évident que la politique et la sagesse ne peuvent pas se confondre. Si l'on entend par sagesse le discernement de son propre avantage, de son propre intérêt, il faudra reconnaître alors plusieurs espèces différentes de sagesse. Évidemment, il ne peut y avoir une seule et même sagesse qui s'applique à ce qui est avantageux et bon pour tous les êtres. Elle diffère pour chacun d'eux, à moins qu'on ne veuille aller jusqu'à soutenir aussi que la médecine est une pour tous les êtres sans aucune distinction. Il n'importe d'ailleurs en rien de prétendre que l'homme est le plus parfait des êtres, car il y a bien d'autres êtres encore dont la nature est plus divine que celle de l'homme, et par exemple les corps éblouissants dont l'univers se compose. Paragraphe 8. Mais pour en revenir à ce que nous avons dit, il est bien clair que la sagesse est la réunion de la science et de l'entendement, appliquée à tout ce qu'il y a naturellement de plus admirable et de plus relevé. Aussi on appelle un Anaxagore, un Thalès et tout ce qui leur ressemble des sages, et non pas seulement des hommes prudents, parce qu'on les voit en général fort ignorants de leur propre intérêt, et qu'on les regarde comme très savants en une foule de choses qui n'ont pas d'utilité immédiate, qui sont merveilleuses, difficiles à connaître, divines même, mais dont on ne saurait faire aucun usage profitable, car ces grands esprits ne recherchent pas les biens purement humains. Paragraphe 9. La prudence, au contraire, ne s'applique qu'aux choses essentiellement humaines et à celle où la délibération est possible pour la raison de l'homme. Car l'objet principal de la prudence, c'est, à ce qu'il semble, de bien délibérer. Mais jamais on ne délibère sur les choses qui ne peuvent être autrement qu'elles ne sont, ni sur les choses où il n'y a pas un but précis à poursuivre, c'est-à-dire un bien qui puisse être l'objet de notre activité. Et d'une manière générale et absolue, l'homme, dont on peut dire qu'il est de bon conseil, est celui qui sait trouver par un raisonnement infaillible ce que l'humanité a de mieux à faire dans les choses soumises à son action. Paragraphe 10. C'est que la prudence ne se borne pas à savoir seulement les formules générales. Il faut aussi qu'elle sache toutes les solutions particulières, car elle est pratique, elle agit, et l'action s'applique nécessairement à des choses de détail. C'est là ce qui fait que certaines gens qui ne savent rien sont souvent plus pratiques et plus aptes à agir que ceux qui savent. Entre autres, c'est là ce qui donne tant d'avantages aux gens qui ont l'expérience pour eux. Par exemple, supposons que quelqu'un sache que les viandes légères sont de facile et saine digestion, mais qu'il ignore quelles sont précisément les viandes légères. Ce n'est pas lui qui rétablira la santé du malade. Ce sera plutôt celui qui sait que les viandes d'oiseaux spécialement sont légères et saines, qui pourra bien mieux réussir. La prudence est essentiellement pratique, et par conséquent, elle doit avoir les deux ordres de connaissances. Et à choisir, elle doit surtout avoir la connaissance particulière de détails. Car on peut dire que cette dernière est en ceci comme la science architectonique et fondamentale.